la transite hypnotique, c'est un moment pendant lequel le dialogue interne ne fonctionne plus. Cette première pierre angulaire, elle explique tout le lien que je vais faire ensuite avec la psychothérapie, la littérature et la philosophie.
Rencontre at Fond d'études. Un podcast de la Fondation Suisse d'études. Conversation inspirante avec le réseau de la Fondation.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Rencontre à Fond d'études, le podcast de la Fondation Suisse d'études. Je m'appelle Matteo Titus et je suis collaborateur scientifique auprès du bureau de la Fondation en Romandie. C'est avec grand plaisir que nous recevons notre deuxième intervenant francophone de cette saison, qui a un véritable touche-à-tout. Musique, mise en scène, théâtre, philosophie, littérature et maintenant psychologie et j'en passe. Mais avant de plonger dans ces multiples projets, je vous propose de prendre un petit recul pour tenter d'organiser cette diversité d'intérêts en trois grands pôles. Premièrement, la recherche, la soif de connaissances. Il vient d'obtenir un master en philosophie et littérature à l'université de Neuchâtel et envisage peut-être un doctorat dans quelques temps. Ensuite, l'enseignement. Il commence en effet actuellement la HEP pour enseigner la philosophie et le français. Et finalement, la psychologie. Il entame en effet un bachelor dans ce domaine à l'université de Berne, avec la volonté de devenir psychologue clinicien. Si ce triangle académique semble déjà bien complet, je dirais qu'il lui manque encore ses arêtes. Et précisément ce qui relie ces sommets entre eux, ce sont sans doute ses projets artistiques. Autrement dit, si ce triangle existe dans le domaine de l'apprentissage, de la réception du savoir, nous allons aussi découvrir sa face créative. Bonjour Luca Giglio, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Matteo, merci pour ton invitation et ta généreuse introduction.
Cher Luca, une première question un peu philosophique pour entrer en matière. Après ce rapide tour d'horizon de tes intérêts, comment te situes-tu face à eux?
C'est une bonne question. À entendre ce bilan, je crois surtout que ça trahit une certaine hyperactivité de ma part, qui relève du fait qu'il y a un enthousiasme sincère et réel pour les matières que j'ai étudiées, les gens que j'ai rencontrés et la musique que j'ai la chance de pratiquer. Après, honnêtement, cette énergie, elle me vaut parfois aussi quelques déconvenues. Elle met parfois à l'épreuve le perfectionnisme que j'ai vis-à-vis de ce que je fais. Par exemple, l'envie de tout faire vite, ça m'amène parfois aussi à ne pas avoir exactement les résultats que je vise. Globalement, cet enthousiasme reste une disposition qui, chez moi, a son histoire, qui doit beaucoup aux gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, vraiment, et dont j'essaye le plus possible de me rendre compte de tous les privilèges qui me permettent de l'actualiser.
Et comment penses-tu à ton parcours en termes de cohérence ?
C'est vrai que la cohérence de mon parcours, elle apparaît plutôt tard, j'avoue, dans la réflexion que je me fais vis-à-vis de la psychologie, la littérature et la philosophie. Je rajoute que j'ai eu la chance d'avoir une formation, de faire une formation en hypnose thérapeutique pendant la fin de mon bachelor. Et cette formation, elle m'a ouvert la porte à tout ce qui était plutôt prise en charge clinique, thérapeutique. De base, c'était vraiment tout l'aspect philosophique de l'hypnose qui me parlait, parce que j'avais cette grande réflexion liée à quelque chose d'indicible, quelque chose qui se dit pas mais qui se vit. Et l'hypnose, en fait, la transe hypnotique, c'est précisément ça. En tout cas, c'est ce que, pour moi, c'est la transe hypnotique. C'est un moment dans lequel le dialogue interne ne fonctionne plus. Je crois que cette première pierre angulaire, elle explique tout le lien que je vais faire ensuite avec la psychothérapie, la littérature et la philosophie. Il y a aussi une grande notion qui fait la cohérence dans mon parcours, c'est cette notion de réflexivité d'abord, qui pour moi est juste le fait de réfléchir à soi sur les causes de ce qui fait qu'on dit ce qu'on dit, qu'on fait ce qu'on fait, et la notion d'attention conjointe aussi, qui est en fait, une notion de psychologie du développement consistant à expliquer l'éveil de la curiosité chez l'enfant vis-à-vis de son rapport aux parents. L'attention conjointe, telle que je la comprends, c'est une explication, une notion qui explique pourquoi l'enfant s'ouvre au monde en étant, d'une certaine manière, introduit par le parent ou un médiateur à ce qui l'entoure. Donc, c'est vrai que finalement, j'ai un rapport, je crois, très conceptuel aux choses que j'étudie, à mes intérêts intellectuels. C'est vrai que c'est ce qui crée un lien plutôt abstrait entre la littérature, la philosophie et la psychologie.
Si on va un peu plus en détail dans ton parcours biographique, tu as grandi dans le canton du Valais, à Ride plus précisément. Ta mère est professeure d'italien, ton père professeur de batterie. Et fast forward quelques années, tu décides d'aller au collège. Là, tu découvres la géopolitique et surtout, un peu plus tard, la philosophie et la littérature grâce à un professeur inspirant. Ce sera le déclic. Tu poursuis ensuite avec un bachelor puis un master à l'université de Neuchâtel dans ces disciplines. Et maintenant, peux-tu nous raconter comment l'étude de la psychologie est entrée dans cette trajectoire et comment elle entre en dialogue avec ton bagage d'une part philosophique et de l'autre littéraire?
Alors, je pense qu'il y a déjà ce que je viens de dire vis-à-vis de l'attention conjointe, la réflexivité. Comme j'ai dit, un rapport très abstrait à ce que j'apprends comme concept et en même temps j'essaye de l'appliquer au jour le jour de la manière la plus concrète possible, honnêtement. Je crois qu'il faut peut-être parler un peu de ce qui m'a amené à avoir un intérêt pour la psychologie, la philosophie et la littérature. C'est en particulier les personnes qui m'ont ouvert à ça, à commencer par deux professeurs de lycée, Stéphane Albelda, Marie-Hélène Papillot, qui sont d'ailleurs partenaires et qui ont eu cette grandeur, je trouve, cette capacité à éveiller la curiosité chez leurs élèves. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux à mon avis, qui relève en fait de l'attention conjointe, qui relève de cet éveil partagé, de cette curiosité partagée vis-à-vis d'un objet, qu'il soit littéraire, philosophique ou juste réflexif en fait. Et ça, c'est un aspect qui m'amène à avoir un éveil intellectuel. Dans un deuxième temps, j'ai eu la chance de faire un bachelor. Donc ce bachelor à trois branches m'a permis d'avoir un contact avec certains professeurs et certaines professeurs universitaires, particulièrement portés vers des questions réflexives, pas forcément psychologiques. Et tout ça, ça m'amène aussi à, comment dire, d'une certaine manière, condenser en fait des questions que j'avais avant l'université dans des concepts qui étaient très travaillés, très étudiés. Donc je crois que c'est un peu ça qui crée le lien de manière générale.
Et passons maintenant à une autre dimension de ta vie, la création artistique. Tu as joué de la guitare et du synthé dans plusieurs groupes au niveau semi-professionnel, tu as fait du théâtre, mise en scène, interprété. Bref, tu es aussi à l'aise sur scène que dans les bibliothèques. Peux-tu nous raconter ce que ces pratiques t'apportent et comment elles te permettent peut-être de contrebalancer une certaine passivité qu'imposent parfois les études?
Alors, c'est marrant parce que j'ai pas été toujours très à l'aise sur scène, honnêtement. Et d'ailleurs, mes potes, en tout cas ceux avec qui je fais de la musique, ils le savent, on en rigole assez souvent. Et je pense que c'est quelque chose qui est très particulier d'exposer son art sur scène. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande de savoir pourquoi on est là, ça demande de savoir aussi quelle est la légitimité de ce qu'on fait vis-à-vis d'un regard qu'on demande finalement. On demande, dès qu'on fait de la musique, on demande écoute-moi, regarde-moi d'une certaine manière. Et je trouve que c'est dur en fait. C'est un grand parcours. Je pense qu'il y a quand même un grand contraste entre les études et la scène, la musique, la création. C'est cet aspect de collaboration. On est toujours dans un projet commun. Quand on fait de la musique, je trouve, en tout cas personnellement, c'est des projets très collectifs dans lesquels je me suis engagé, dans lesquels je me considère uniquement qu'un des nombreux rouages, qui est peut-être plus exposé vu que je suis sur scène, mais qui ne pourrait pas se réaliser sans l'ingé son, les producteurs, et j'en passe, hein, graphisme. On est vraiment sur un travail de groupe. Et je pense que ça, c'est le gros hiatus, le gros contraste qu'il y a entre des études qui sont, si elles n'exposent pas forcément qu'à la solitude, elles sont très solitaires, d'une certaine manière. On est toujours dans un projet très personnel quand on est dans des études, et un groupe musical, par exemple, ou une pièce de théâtre, c'est quelque chose qui se fait à deux et plus.
Parfois d'ailleurs, musique et théâtre s'entrelacent. Il t'arrive en effet de collaborer avec la même personne dans les deux domaines, comme dans la pièce que tu prépares en ce moment avec Setei, qui est aussi le rappeur de votre groupe éponyme. Quel lien fais-tu entre ces deux formes d'expression?
C'est vrai que le théâtre, j'y ai été initié par une pièce qu'on avait réalisée avec mon ancien groupe qui s'appelait Mariposa, une pièce qui s'appelait Translucide, qu'on a eu la chance de réaliser à la belle usine de Fuy et qui a été un vrai événement un peu fondateur dans mon rapport au théâtre parce que j'avais jamais fait de théâtre avant. Et là, je me suis retrouvé à devoir jouer et interpréter un personnage qui était finalement même pas forcément un personnage, c'était une pièce très abstraite, très portée sur la peur du vide. Je crois qu'il y avait, en tout cas, dans le lien entre la musique et le théâtre, personnellement, un grand événement qui s'est passé avec Translucide, cette pièce-là. C'est vrai que c'est un lien que je fais qui est très incarné. Hein. Je crois que la question de l'incarnation du corps et de la présence scénique que j'avais sur scène, elle s'est transmuée, elle s'est d'une certaine manière condensée dans l'expérience théâtrale que j'ai la chance de faire. Et là, ce nouveau projet, il va m'exposer encore à ces questionnements et en tout cas à cette pratique. On est face à un public, hein, et on demande encore une fois de l'attention et il faut que ce soit légitime. C'est ça le lien que je fais entre la musique et le théâtre.
Tout te vient cette énergie, cet élan pour t'engager dans autant de directions à la fois?
Alors c'est vraiment une bonne question, je trouve. Il y a à la fois des moteurs qui sont plutôt positifs, à mon avis, et d'autres moteurs qui sont peut-être plus négatifs, sans être dramatiques. Mais pour mentionner en tout cas les moteurs plutôt positifs, je pense qu'il y a un réel et sincère amour des matières que j'étudie, des gens que je côtoie et des projets dans lesquels je suis investi. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, réel et qui m'invite à réaliser ce que j'essaie de réaliser au mieux et avec l'agenda que j'ai. Il y a aussi une conviction qui est assez fondamentale dans ces trois matières en particulier. C'est tout le rapport très humain et le potentiel de relation auquel ça ouvre. À mon avis, je parlais de l'attention conjointe. Tout ce qui est de l'ordre de la littérature, qui est de l'ordre de la philosophie et déjà de l'enseignement de ces deux branches, c'est quelque chose qui crée une relation d'emblée. Le simple fait de juste en parler là et peut-être de susciter une curiosité chez un auditeur, même là actuellement, c'est quelque chose qui crée un mouvement, une dynamique et une attention qui est portée vers une matière. Et je trouve que ça, c'est particulièrement beau. Et la conviction, c'est que c'est possible de créer une relation via la réflexivité, via juste cette forme de curiosité qui est partagée. Plutôt par rapport à la psycho, il y a aussi une grande conviction qui est la certitude que avoir des connaissances en psychologie, ça peut m'amener à avoir un lien peut-être plus sain et plus, aidant à d'autres personnes, à des gens qui m'entourent. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, assez important de le mentionner dans tout ce qui me... De là d'où vient cette énergie, je pense qu'il y a, ces valeurs là qui parlent. Sans parler de toute l'admiration que j'ai, je fonctionne beaucoup par modèle et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes, des professeurs, des intellectuels que j'ai eu la chance de lire et sur lesquels je me base pour faire ce que je fais, en sachant que j'ai quand même une sensibilité pour des personnes que je sens engagées dans les événements et dans les activités qu'elles proposent. Par rapport au moteur peut-être plus négatif, à mon avis, il faut le dire aussi, il y a une grande peur de rater et de faire des mauvais choix vis-à-vis de ma vie. La FOMO, c'est vraiment quelque chose qui m'anime à peu près tous les jours. J'ai pas une journée, je crois, qui passe à la fin de laquelle je me dis pas que j'ai rien fait. Et c'est vrai. J'ai cette angoisse un peu de passer à côté d'opportunités et j'ai un peu l'impression de facilement rien faire et pas assez faire vis-à-vis de la chance que j'ai de pouvoir faire ces choses. Donc, mais ça reste soignable, hein, on est d'accord. Il y a aussi un rapport au temps peut-être un peu plus difficile parce que j'ai une surestimation assez globale de mes capacités à pouvoir tout gérer. Et ça m'amène à faire beaucoup de choses. Et pas forcément autant bien que ce que j'aimerais qu'elles soient. Mais je parle de moteur négatif, c'est pas forcément dramatique comme je l'ai dit. Et c'est des choses dont je suis quand même, je reste assez fier et qui restent des défis et des choses très stimulantes en fait. C'est une disposition qui me stimule beaucoup de pouvoir faire autant de choses.
En parlant d'opportunités fort louables, tu te destines à l'enseignement mais aussi à la psychologie clinique et tu as déjà assuré plusieurs remplacements dans l'enseignement. nous a confié avant ta pratique ponctuelle de l'hypnose dans ton cercle proche. Comment compares-tu la responsabilité qui découle de ces deux activités différentes ? Et aussi, comment la vois-tu évoluer dans ta pratique future en tant qu'enseignant, respectivement psychologue diplômé ?
Alors, d'abord, pour la psycho, c'est vrai que j'espère vraiment réussir ces études parce qu'elles m'ouvriront peut-être à cette formation continue de l'EMDR. L'EMDR, c'est une technique de psychotraumatologie assez proche de l'hypnose qui a fait ses preuves, qui est assez efficace et qui pourra peut-être m'ouvrir à un engagement humanitaire futur à très long terme. Ça reste un des projets d'avenir. À mon avis, c'est voilà, ce pan psycho, il est motivé par, comme je l'ai dit avant, la volonté de me sentir aussi assez utile et de rentrer en relation parce que j'ai cette conviction que, là encore, la psycho, c'est quelque chose qui ouvre à, en tout cas, au minimum, des réflexions un tout petit peu intéressantes sur soi et au mieux à des changements profonds de la subjectivité. Que ce soit la subjectivité de patient ou d'élève, parce que ça reste un complément si je fais que de l'enseignement qui reste mais tellement riche. Et justement, pour faire le lien avec l'enseignement, je crois que je suis plutôt motivé à faire de l'enseignement parce que j'ai eu des modèles d'enseignants qui ont pu éveiller beaucoup de curiosité chez moi et j'espère à mon tour pouvoir éveiller cette curiosité chez d'autres personnes. C'est ça qui me motive plus que tout, je crois, dans l'enseignement, au-delà de toute la richesse relationnelle à laquelle l'enseignement ouvre.
Si on parle du pan plus réceptif de l'enseignement, c'est-à-dire les examens, tu viens en ce moment une transition intéressante entre deux types d'évaluation à l'université. D'un côté, les examens rédigés qu'on retrouve en lettres, de l'autre, les QCM plus fréquents en psychologie à présent. Selon toi, ces formats mobilisent-ils des facultés différentes ? Et aussi, est-ce que l'un d'entre eux te paraît plus responsabilisant dans ton apprentissage ?
Alors, c'est vrai que la modalité travail long de séminaire, un rendu de 20-30 pages, c'est quelque chose que je considère a priori comme plus efficace pour l'enseignement, en tout cas pour l'acquisition de certaines connaissances, parce qu'on est face à une acquisition de la matière qui est plutôt lente. Et je pense que la question du rythme, de l'acquisition de la matière, c'est une question qui doit se poser et qui est assez centrale. Quand on est face à un QCM, on aurait plutôt tendance à se dire qu'on est sur du bourrage de crâne la semaine d'avant et ensuite on oublie un peu tout. Donc je crois qu'un autre aspect de ce travail un peu plus long, travail de séminaire, qui est à mon avis un grand avantage vis-à-vis du QCM, c'est la responsabilité que ça demande. Et toute l'incarnation, la personnalisation qu'on a malgré tout quand on écrit un travail. Même si c'est un travail qui nous vaut du mal et qu'on déteste réaliser, il y a vraiment une forme d'individuation, il y a vraiment une forme de réalisation de soi à travers cette écriture. Je trouve que ça reste quelque chose de très créatif quand même malgré tout. Peut-être c'est parce que j'ai fait des études de lettres, mais je reste persuadé qu'un travail écrit, c'est quelque chose qui a cet avantage-là. Au moins. Après, il faut quand même que je dise que le QCM, il a cette possibilité d'entraîner des connaissances très précises. Et ce n'est pas une manière de questionner qui est complètement bête. À mon avis, il y a vraiment un exercice intellectuel qui est juste complètement différent. Et à mon avis, ça gagnerait à cohabiter.
Avant de conclure, j'aimerais revenir sur ton lien avec la Fondation Suisse d'études. Ces deux dernières années, tu as vécu plusieurs expériences marquantes avec nous. Et tu viens d'ailleurs d'obtenir notre bourse d'excellence en sciences humaines et sociales 2025-2026. Qu'est-ce que cela représente pour toi ? Et qu'as-tu retiré de ces différents moments ?
Alors déjà, c'est extrêmement valorisant de recevoir cette bourse. Je ne pensais vraiment pas du tout être destiné à recevoir une telle valorisation. Donc j'ai quand même envie de souligner que je suis assez rempli de gratitude vis-à-vis de ça. J'ai conscience du privilège que c'est. Et tout ça, ça me donne envie d'honorer ce privilège à la hauteur des opportunités auxquelles ça m'ouvre. Donc en tant que tel, une bourse d'excellence, ça me permet très pragmatiquement d'éviter un emploi alimentaire pour avoir le temps en fait, de m'engager dans diverses directions. J'ai eu la chance d'être soutenu par mes parents jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que d'avoir cette sorte de prolongement de soutien financier grâce à la Fondation, c'est quelque chose qui a pas de prix. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et d'ailleurs, à mon avis, c'est important de garder cette conscience de la relative difficulté financière qui est le lot de beaucoup d'étudiants proches de moi, et qui est en fait quelque chose qui doit forcément être discuté déjà, mais justement que la Fondation Ses Études permet de pallier en partie pour certaines personnes, et ça, j'en suis complètement et très sincèrement reconnaissant. Et au-delà de ça, par rapport à la fondation, je suis rentré dans la fondation Suisse d'études assez tardivement, en première année de master. Je suis presque quand même un peu déçu de ne pas l'avoir fait avant, parce que les événements auxquels j'ai pu assister grâce à ça m'ont beaucoup marqué. Un notamment, qui s'appelait « Principes, utilisation et enjeux éthiques des intelligences artificielles génératives ». Ça, finalement, ce week-end, qui a été présidé par Joanne Rochelle et Pierre-Emmanuel Istès. Ça a été un week-end d'éveil intellectuel énorme qui m'a ouvert sur toutes ces questions très, très, très importantes, à mon avis, et très contemporaines de l'intelligence artificielle, qui touche à peu près tous les domaines. Et en ce qui relève de la réflexion sur les enjeux philosophiques liés à l'IA, c'était vraiment un séminaire excellent. Et à mon avis, il devrait être au programme des lycées, de tous les lycées, au moins. Voilà. Et donc oui, je pense qu'il y a une grande gratitude et une grande volonté de montrer ma reconnaissance vis-à-vis de la Fondation Suisse d'études pour ça et pour la bourse que j'ai eu la chance et le privilège d'avoir.
Merci infiniment Luca d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait voyager à travers tes parcours, tes passions et les réflexions qui les nourrissent. On te souhaite plein succès à Berne et sur scène bien sûr aussi.
Merci beaucoup à toi Mathéo.
Merci aussi à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la fin de cette troisième saison avec deux épisodes à ne pas manquer. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire à info@studienstiftung.ch pour partager vos retours ou vos idées. Ciao, prenez soin de vous et à bientôt.
Rencontre at Pont d'études. Un podcast de la Fondation Suisse d'études.